Autre radio, autre culture, bonsoir. Émission également diffusée sur audiopeople.fr et audiofanzine.com. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Pille. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors Guillaume est fondateur de la société Orosis. J'ai appris également que Guillaume est universitaire, qu'il a passé un doctorat.
Et oui, dans une autre vie.
Et qu'il est également... Donc il a fait une formation technique dans la pratique de plusieurs instruments de musique.
Tout à fait.
Et donc au niveau universitaire, il s'est intéressé plus particulièrement à l'électronique,
oui,
et la optronique et le traitement du signal.
Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors en fait, j'ai une formation d'électronicien et dans mon cursus, j'ai effectivement passé une thèse en fin de cursus universitaire sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'audio, puisque je faisais des télécoms à l'époque, et en particulier du traitement du signal optique. Donc c'est de la physique pour l'essentiel, un peu d'électronique, et surtout une somme de calculs assez impressionnante, des outils mathématiques qui finalement sont les mêmes qu'en audio. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'optique c'est une onde, donc on utilise des outils mathématiques qui sont très très proches de ce qu'on utilise en audio. Et effectivement, parallèlement à ça, moi j'ai toujours... eu une passion pour la musique et en tant que musicien, mais aussi preneur de son amateur, toute proportion gardée. Et bien le projet et la marque Two Notes sont issus d'une démarche conjointe de ces deux choses qui étaient jusqu'à présent bien séparées dans ma vie, que j'ai regroupées. Donc une passion à la fois pour la technique, la recherche scientifique et le développement de produits, et l'audio au sens le plus large du terme, donc à destination des musiciens, mais aussi des preneurs de son.
Alors ça marche tellement bien que vous êtes lauréat du concours national d'aide de la création d'entreprises innovantes,
oui,
du 26 août 2008, donc c'est tout récent.
Exactement, on vient juste de gagner.
Et qui est organisé, donc moi je tiens à le féliciter, parce qu'il est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'ANR et l'OSEO. Alors il est lauréat, Guillaume est lauréat, catégorie création-développement, pour son projet Orosis.
Oui, et alors la chose vraiment amusante, c'est que je suis non pas lauréat sur ce produit dont on va parler ce soir, mais sur le prochain, puisqu'on a un coup d'avance en fait. Donc le ministère de la Recherche en fait sanctionne par ce concours des projets qui... donc en France, je ne suis pas tout seul, hein, on est quand même 70 à avoir gagné le concours, mais en gros une petite centaine d'entreprises qui dans les années à venir leur semblent prometteuses d'un point de vue recherche et ensuite d'un point de vue bien sûr emploi, et il faudra qu'on paye tous beaucoup d'impôts.
Oui, mais bon, qui dit payer beaucoup d'impôts dit beaucoup de rentrées d'argent.
J'aimerais mieux, oui.
Alors, quelle différence y a-t-il entre Orosis et Two Notes?
Alors, Orosis, c'est le nom juridique, c'est la société. Donc, je suis gérant, de fait, d'Orosis. Et Two Notes, c'est notre marque commerciale. C'est-à-dire qu'Orosis a d'autres activités de développement. Et Two Notes, c'est un des projets, enfin, c'est notre projet principal. Mais c'est la marque, c'est-à-dire, c'est par Two Notes que nous communiquons à destination de nos clients. Donc, Orosis reste un peu en retrait. Hein, c'est vraiment la société qui facture, etc. C'est une entité juridique. Et Two Notes, c'est la marque avec son image, avec ses produits.
Alors le bébé qui arrive là, qui va être présenté aux médias, c'est le Torpedo VB101.
Oui.
Vous allez nous en faire une petite description.
Tout à fait. Alors pour parler du concept, le Torpedo VB101, c'est une machine qu'on présente comme une alternative à la prise de son habituelle telle qu'on la connaît d'amplificateur guitare et basse. Donc c'est un produit spécifique destiné aux guitaristes électriques et bassistes électriques, donc des gens qui jouent sur des instruments qui sont ensuite amplifiés, dont on prend le son habituellement à l'aide d'un micro qu'on place devant une enceinte. Donc on a un système électrique qui est l'ampli, avec la guitare avant qui est aussi un système électrique, et ensuite une enceinte qui émet du son et devant un micro qui capte ce son. Notre idée, ça a été de proposer une alternative silencieuse à la prise de son, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une enceinte, on va brancher l'amplificateur sur notre boîtier, le VB101, donc plus de son produit. On récupère vraiment le signal électrique qui arrive de l'amplificateur, donc tout le son du guitariste qui est fait vraiment par ses doigts, sa guitare, ses micros, son ampli, enfin pré-ampli, ampli, vraiment tous les étages qui comptent d'un point de vue électrique. Nous, on récupère ce signal électrique et derrière, on convertit ça en numérique et on réalise une simulation de la prise de son. la simulation de la prise de son, c'est on simule l'enceinte, on simule un micro, et ensuite on place le musicien ou l'ingénieur du son dans la situation de prise de son, c'est-à-dire avec la possibilité de déplacer le micro dans l'espace, devant ou derrière l'enceinte, comme si on était en studio, classiquement, quand on a un assistant qui va déplacer le micro jusqu'à trouver ce qu'on appelle le sweet spot, la bonne position de micro pour l'objectif qu'on s'est fixé pour un son bien particulier. Voilà l'objet de la machine, de la prise de son, et ça se destine à la fois pour les gens qui font du live, du concert, qui vont plutôt être intéressés par l'aspect côté pratique de la machine. On met en place son système en quelques secondes juste en branchant XLR. C'est une DI, hein, c'est un boîtier de direct. On va plus faire de prise de son micro sur l'ampli guitare ou basse. On va juste brancher un XLR sur notre boîtier vers la façade et vers le retour. Et pour les gens qui font du studio, l'intérêt qu'ils vont y trouver, c'est que nous, bien sûr, on simule plusieurs types d'enceintes et de micros et qu'on va pouvoir choisir, en fonction d'une application donnée, la bonne enceinte et le bon micro en fonction de ce que le client souhaite.
On destine ce matériel à quel type de personnes ? Des professionnels, des musiciens professionnels,
C'est un produit qui est conçu pour les professionnels, c'est-à-dire qu'au niveau de la qualité de ce qui est embarqué, donc l'électronique, au niveau de la qualité du châssis, des boutons, des poignées, enfin, etc., tout ça c'est défini sur un cahier des charges professionnel, c'est-à-dire ça doit résister à une tournée. Hein, notre cahier des charges est simple, hein, ça doit tomber, ça doit tenir le choc. À côté de ça, on a quand même une fonctionnalité qui va beaucoup intéresser les amateurs, on va dire passionnés, qui est de pouvoir jouer leur ampli. Il y a beaucoup d'amateurs qui sont offerts depuis quelques années des têtes d'ampli 100 watts, des très beaux amplis à lampe, qui malheureusement ne vont pas pouvoir forcément le pousser chez eux comme ils devraient l'être, qui vont, grâce à notre machine, pouvoir se brancher dedans et avoir au casque, sans gêner personne, sans avoir une pièce traitée acoustiquement, avec une bonne insonorisation, qui vont pouvoir au casque avoir un rendu professionnel, un rendu de prise de son de studio. Et donc un confort de jeu qu'aujourd'hui personne ne leur propose.
Nous avons autour de nous, donc autour de Guillaume, nous avons Grégory d'Audiofanzine.
Bonsoir.
Qui a eu la gentillesse de venir.
C'est un plaisir.
Vous avez entendu tout à l'heure de la guitare, c'est Kenny Serran.
Bonsoir.
Voilà, guitariste. Et nous avons notre grand bavard habituel.
Bonsoir.
Christophe.
Lui-même.
Voilà, des questions, parce que vous les techniciens, les fanas de matériel haut de gamme, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, on peut peut-être rentrer un petit peu dans le détail de l'utilisation. Si j'ai bien compris, c'est bien la sortie vers l'enceinte qu'on branche dans le torpedo en sortant de l'ampli guitare. Donc ce n'est pas une sortie ligne, c'est vraiment la sortie chargée qui est censée être branchée sur une enceinte.
D'un point de vue électrique, le VB101 est une enceinte.
D'accord.
Pour l'ampli, en tout cas. Il voit ça comme une enceinte. L'intérêt de cette démarche, c'est vraiment de capter tout le son qui est fait vraiment par l'ampli. Pas juste le préamp, pas juste l'étage de puissance.
Guitare-ampli, pas juste, contrairement à certains produits concurrents, le son direct de la guitare. Quoi. Là, tu as vraiment le couple ampli-guitare.
On fait vraiment de la prise de son d'ampli réel, avec les pédales, avec tout. C'est-à-dire que pour le musicien, on n'apporte pas réellement de changement par rapport à ses habitudes. C'est-à-dire que lui joue comme d'habitude avec ses effets, son ampli, etc. Le seul changement qu'on lui apporte et qui est notable, c'est que non seulement il va mettre très peu de temps pour avoir un son vraiment parfait, enfin parfait, studio, pour ses enregistrements, ses maquettes, mais aussi sur scène. C'est-à-dire que sur scène, d'un soir sur l'autre, un son nickel, quelles que soient les conditions de jeu. Et ça, en très très peu de temps, ça se met en place et on tire un XLR.
Et puis jouer à la maison sans déclencher une guerre atomique avec les voisins, sans réveiller bébé, sans déranger madame qui regarde son feuilleton, plus belle la vie.
Et sans faire de compromis sur la qualité. Ce qu'on a dans le casque, c'est vraiment très très bon.
Alors justement, c'est vrai qu'il y a des produits, on pourrait dire concurrents, qui se contentent effectivement de traiter un signal au niveau préampli. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça. D'après les essais que vous avez faits, la partie ampli de puissance apporte vraiment quelque chose au niveau sonore.
Pour moi, c'est une évidence. C'est le point de départ de notre travail. C'est que, c'est une évidence, ça dépend un peu du style et du type d'ampli. Je ferai vraiment là deux catégories. Une catégorie pour des gens qui jouent vraiment avec un son très saturé, qui vont rechercher surtout une saturation liée à l'étage de préamplification. Donc tout ce qui va être jeu, rock, très appuyé, métal, etc., où c'est vraiment l'étage de préamp qui va jouer, et où la puissance, on va lui demander plutôt d'être assez droite, assez fidèle. Et tout ce qui est rock, vintage, tout ce qui va être jazz, etc., on va vouloir un son qui va peut-être être un petit peu moins propre, un peu moins précis, et on va aller chercher une saturation des tâches de puissance qui, selon le type de tube, va changer, selon le type de transfo de sortie, va changer, selon l'alimentation des tubes, va changer, etc. Il y a des paramètres très importants. Un des paramètres, c'est par exemple l'effet de ce qu'on appelle d'écroulement d'alimentation, qui est tout simplement quand un guitariste joue fort son ampli, quand il envoie ce qu'on appelle un palm mute, c'est-à-dire des notes étouffées dans le grave, il va se produire un phénomène bien connu des gens qui développent des amplis, c'est que l'alimentation va, ce qu'on appelle, s'écrouler, elle va plus donner assez de courant, et d'un coup, on va avoir un phénomène de compression, c'est-à-dire que la dynamique de l'ampli se ratatine et on va avoir une compression du son qui est très agréable et qui est recherchée souvent par les musiciens, sans qu'ils le sachent. Mais c'est ce phénomène-là qu'ils vont retrouver. Les tâches d'amplification est tout sauf négligeable.
Et quelque chose qui m'avait étonné, c'est en lisant, vous disiez au niveau des concerts, fini la terreur pour l'ingé son de voir le guitariste monter le son au moment du concert après un réglage pépère en balance. Alors ça m'a étonné parce que on est habitué à voir des très grands groupes de rock qui sont hyper maniaques au moment des balances, justement pour tout le réglage de son. Et vous dites, oui, ça existe, il y en a qui arrivent et puis pouf, au dernier moment, change la tonalité de la guitare et finalement, mais tout en l'air.
Alors, je pense que vous faites allusion à un système de réglage de gain automatique qu'on a mis en place.
Ouais.
C'est, en fait, c'est plus une sécurité. Alors, la machine est sur scène, d'accord ? Elle est proche de l'amplificateur. C'est-à-dire que l'ingénieur du son façade, par exemple, n'y a pas accès. C'est une machine numérique. Ça veut dire qu'il a fait un gain pendant la balance. Si jamais le guitariste monte son volume pour une raison X ou Y, on ne parle pas de contrôle d'égalisation, on parle vraiment de contrôle de volume. Ce qui va se passer, c'est qu'une machine numérique, ça sature. Et quand ça sature, c'est vraiment très laid. Donc on va chercher à éviter cette saturation. Problème, l'ingénieur du son est à 30 mètres de la scène. Donc le système qu'on a mis en place, c'est que si jamais le guitariste, pour une raison X ou Y, quelle qu'elle soit, par exemple, imaginons un cas qui se produit très souvent avec des groupes, peut-être pas les Rolling Stones, mais on va dire un groupe un peu plus amateur, le guitariste ne s'entend pas dans le retour. C'est un réflexe très humain de se dire, comme je ne m'entends pas, je vais me monter. Son seul moyen d'agir sur le son, c'est d'aller monter son volume d'ampli. Et ça, moi qui ai une petite expérience de scène, c'est quelque chose que j'ai vu très souvent, il va aller monter son ampli. Or, d'habitude, l'ingé son, lui, il a sa possibilité en façade de baisser son gain, si jamais ça se passe. Et avec notre machine, bah, le gain, il est déjà dans la machine. Donc on ne peut plus intervenir dessus et il va avoir en console de la saturation sur laquelle il ne pourra plus jouer. Ça, c'est de toute évidence un cas qu'on ne veut pas voir se produire. Donc ce qu'on propose aux ingénieurs du son qui font de la prise live, c'est que notre réglage de gain automatique va détecter une crête et en quelques dixièmes de seconde va ajuster le gain. Donc ce n'est pas un limiteur, hein, c'est vraiment un réglage de gain. Il va ajuster le gain autour de cette nouvelle valeur maximum, ce qui fait que même si le guitariste est très très déraisonnable, on va pouvoir protéger de la saturation tout le système. Et l'ingénieur du son va voir ses niveaux en permanence calé sur ce qu'il aura calé en balance. Ça, c'est une fonctionnalité qui nous a été demandée et on se rend compte que même en studio, en fait, on laisse en permanence le gain automatique, c'est-à-dire qu'on va mettre les gains à fond, on va laisser les joueurs, le guitariste jouer un peu, les gains s'ajustent d'eux-mêmes et après on est parti pour la session et on ne se pose pas de questions sur la saturation numérique.
Donc, tu parlais tout à l'heure en fait, d'un certain nombre de micros et d'enceintes qui sont modélisés donc, dans ta machine. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails ? Qu'est-ce qu'il y a à l'heure actuelle dedans ?
On ne fait pas réellement de la modélisation, puisqu'on ne représente pas un état physique par une somme d'équations. En fait, notre démarche, alors pour les gens qui connaissent, c'est des produits qui commencent à être assez répandus, ce qu'on fait, c'est proche de la convolution, donc c'est des systèmes. On va mesurer un système avec un signal test, et on va le reproduire. En termes de, si on veut parler, pas trop mathématiques, mais un tout petit peu, ça va être plus proche du sampling par rapport à la modélisation physique pour les instruments de musique. On va être plus proche du sampling, c'est-à-dire qu'on va prendre une photo d'un système qu'on va reproduire le plus fidèlement possible. Voilà. Donc ça, c'est d'accord. En fait, nous, on va plutôt parler de simulation que de modélisation. Il n'y a pas de modèle mathématique derrière. Après, au niveau des systèmes simulés, nous, on travaille, donc on propose 8 micros pour faire de la prise de son. Alors, je ne peux bien sûr pas trop citer les marques, mais ce que je peux dire, c'est qu'on s'est basé sur les micros qu'on a trouvés statistiquement les plus utilisés en studio, que ce soit pour des dynamiques, pour des statiques et pour des rubans. Donc on a 2 statiques, 2 rubans et 4 dynamiques. À savoir que cette machine fonctionne très bien pour la basse et pour la guitare. Donc on ne fait pas ce genre de distinction en marketing, on va dire, à faire sortir un produit basse, un produit guitare. Ça marche très bien, c'est fait pour faire de la prise de son. Mais on a des micros, par contre, qui sont plus destinés pour la basse que d'autres. Donc des micros dynamiques en particulier qui vont bien mieux marcher sur de la basse du fait de leur réponse. que d'autres. Et au niveau des enceintes, alors c'est pareil, sur les enceintes, on a, au départ, on propose 16 enceintes, on a 8 enceintes guitare et 8 enceintes basse, où on a essayé de vraiment de proposer des configurations variées et originales. Donc on ne se contente pas de faire l'enceinte la plus vendue du moment, on va chercher des modèles des fois un petit peu plus particuliers, donc il y a du 2-12, du 4-12, en basse on a du 1-15, du 1-18, du 8-10, le frigo pour ne pas le nommer, qui est toujours un petit peu compliqué à transporter, à moins d'avoir des rodis, qu'on va bien sûr représenter dans notre machine. Enfin voilà, on offre de la variété. Alors, on a un argument qui est assez intéressant, c'est qu'on offre un outil logiciel qui va permettre aux ingénieurs du son et aux musiciens de mesurer leur propre système et de le mettre dans la machine. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui nous a été demandée par nos clients professionnels qui tournent, c'était de partir en tournée avec leur son. C'est-à-dire qu'ils ont enregistré leur album, ils vont en faire la promotion. Nous, on leur donne la possibilité, pendant le processus d'enregistrement de l'album, de faire une mesure de leur système, enceinte, avec un micro positionné à un certain endroit. Et ils vont pouvoir mettre cette mesure, cette simulation, dans la machine et faire toute leur tournée avec leur son studio. Ouais. Ça intéresse pas mal de gens.
Ouais, c'est un vrai plus, effectivement.
Et c'est vraiment très simple à réaliser.
Ouais, pour avoir vu ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est super simple et... Et ça se branche en USB sur un ordinateur, on peut balancer les presets dedans, enfin c'est vraiment super facile, bien conçu et très facile, très séduisant en tout cas. Moi j'ai pas encore eu l'occasion de bien tester ça, mais les démos que j'en ai eues sont très très concluantes, j'ai envie de dire. Assez bluffant, bravo.
Merci. Alors pour l'USB, pour en parler, on fait pas transiter d'audio par l'USB.
Non, c'est juste les presets.
En fait l'USB, pour moi, donc puisque bon, j'ai conçu le produit, donc fatalement il y a un peu de moi dedans, pour moi c'est pas un format de transfert numérique audio. La machine n'est donc pas une carte son. Pour l'audio numérique, on a des formats professionnels AES/EBU et du SPDIF qui collent avec pas mal de configurations. L'USB, c'est vraiment juste de la commande. C'est-à-dire grâce à l'USB, on va pouvoir faire transiter les données de commande, faire bouger le micro dans l'espace, faire changer les enceintes, etc. Accéder à tous les paramètres de la machine, y compris faire des mises à jour, puisque on peut mettre à jour la machine, on peut rajouter des enceintes, en enlever, enfin bon. On a les réglages de presets pour faire des backups, ce qui est quand même pas mal. Et surtout, c'est un USB sans driver. C'est-à-dire que ça se branche, c'est pour un Mac ou un PC, comme une souris. Donc c'est aussi compliqué qu'une souris à installer. Voilà.
Donc là, tu as commencé à nous parler justement des réglages. Alors quelles actions on peut avoir sur le son? Peut-être qu'on peut avoir une petite démo en même temps.
Bah écoute, allons-y. Là, pour présenter donc, la prise de son, on va parler un peu du matériel. On peut citer les marques des amplis, etc. Donc Kenny va jouer sur une guitare Fender, une Telecaster, un très beau modèle qui s'appelle...
C'est une signature Richie Kotzen.
Voilà.
Avec une petite précision, un double DiMarzio en aigu.
Ouais.
Ça a son importance.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est un double format simple.
Mmh. Voilà. On voit les guitares geeks. Alors, on a Kenny joue sur un ampli, donc c'est un single rectifier Mesa Boogie.
C'est un recto verbe 50 en fait, c'est un combo qui est assez réputé, Mesa Boogie, voilà.
Qu'on a réglé pour quand même attaquer un peu de saturation des tâches de puissance, donc il sort fort, hein. C'est-à-dire que là, je pense que si dans le studio, on était tous avec l'enceinte branchée sur l'ampli, ça deviendrait vite très désagréable.
Et on serait sourd. Hein.
Voilà. Et alors, pour la partie prise de son, ce qui concerne la machine, on a un 2-12 qu'on appelle le 2-12 standard, donc pour donner 2-3 indications dessus, c'est le 2-12 standard, c'est un des 2-12 les plus vendus au monde par une célèbre marque anglaise. Oui, c'est compliqué, on va chercher une marque anglaise d'enceinte la plus vendue au monde. Non, tu vois pas. Voilà, en 2-12 avec
un... Ça commence par un M, non ?
Oui, il y a plusieurs L à la fin.
Voilà.
Et on met devant un micro que j'aime beaucoup, qui est un micro ruban d'une marque un peu plus confidentielle que la marque d'ampli, mais qui...
C'est un Royer.
Je tourne un peu autour du pot. Ouais, c'est un Royer, c'est un R121.
J'aime bien aussi, donc voilà.
C'est un R121 qu'on a réglé, donc on va écouter, hein, c'était le son qu'il y avait en jingle en entrée, qui est réglé. Donc on est dans l'axe, hein, donc on va avoir un son quand même assez riche en aigu, et on est en close miking. Donc on est vraiment très proche de la membrane, à quelques centimètres de la membrane du HP, et tout à fait dans l'axe. Donc,
et pendant que Kenny va jouer, tu vas déplacer le micro, c'est ça?
Tu veux qu'on fasse ça?
Ouais. On va
déplacer le micro. Donc là, on est perpendiculaire à la membrane, face à l'axe de la membrane du HP, enfin d'un des deux HP, et on va s'éloigner de l'axe progressivement. Donc ce qu'il faut entendre, c'est qu'en fait, en s'éloignant de l'axe, on va perdre des aigus, on va avoir un son beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud et beaucoup plus présent en basse. Et je le prouve. Vas-y. Donc là, on a déplacé le micro. Donc là, on a fait vraiment tout le déplacement le long du HP. Alors, la chose vraiment étonnante et qui surprend les gens qui ne sont pas accoutumés à la prise de son sur des systèmes électrostatiques comme une enceinte, c'est d'avoir une autant de différence, une palette sonore aussi impressionnante, en sachant que là, on a déplacé le micro de 10 cm. Donc, on a 100 pas de réglage hein, sur la machine. Cette palette de sons qu'on a eue, c'est uniquement sur une enceinte avec un micro qu'on se contente de déplacer en latéral. On se rend compte des possibilités créatives qu'on a en changeant d'enceinte, de micro. Enfin, bon, on va peut-être faire écouter un autre micro. On va passer de l'un à l'autre. Mais la chose vraiment importante, donc qui surprend pas du tout les ingénieurs du son, puisque eux font ce travail tous les jours de chercher justement ce fameux sweet spot, vraiment l'endroit où il faut placer le micro, mais qui surprend beaucoup les guitaristes et les bassistes, qui eux ont plutôt l'habitude qu'on leur colle un micro vite fait sur scène, voilà, un peu comme on peut, on laisse pendouiller un 609, enfin voilà, qui d'un coup se disent, mais en fait, mon égalisation d'ampli, finalement, peut-être qu'elle sert pas à grand chose. Que peut-être que l'ingénieur du son, si je m'entends pas bien avec lui, il va me saboter mon son alors que j'ai bossé des heures dessus, quoi. Et bah, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la réalité du concert. C'est-à-dire, un groupe qui tourne, il va pas forcément avoir son ingé son attitré, et peut-être que d'un soir sur l'autre, il va avoir quelqu'un qui a pas les mêmes habitudes de travail et qui va lui faire un rendu trop doux, trop sourd, parce que, bah, l'ingénieur du son, il a l'habitude d'avoir, lui, un son. Il aime bien les sons ronds, les sons doux, alors que le guitariste, il avait besoin d'être très présent avec plein d'aigus. Bon, bah, je pense qu'on travaille modestement à régler un de ces soucis, une des incompréhensions qu'il peut y avoir entre les musiciens et les ingénieurs du son. C'est-à-dire qu'on a des objectifs qui sont identiques, c'est-à-dire se faire du bon boulot, mais on a des méthodes pour y arriver qui sont assez différentes, et un langage technique pas compris par les musiciens, un langage artistique qui, j'espère, est compris par les ingénieurs du son, mais voilà, on parle pas forcément la même langue. Là, on va essayer de... je pense que les musiciens vont prendre vraiment conscience que ce placement de micro, ce choix de micro, c'est vraiment quelque chose de drastique, de dramatique, dans le sens positif du terme, hein, c'est-à-dire dans le sens important, dans le processus de création musicale. On peut essayer un autre micro, donc là, on a essayé un statique. Est-ce qu'on va rester dans l'axe? On va revenir. Donc, Kenny, est-ce que tu peux jouer? Je vais juste faire un choix. On va...
Tu veux un son musclé? Tu veux quoi?
Ouais, un son musclé, ouais. Un son un peu chargé, avec un spectre un peu chargé. Là, on est passé sur un 421. Bon, ok, on va dire les noms. Hein. Bon. À nouveau un micro ruban. Un statique d'une marque américaine qui est pas très présente en France, c'est du Blue. C'est du Blue. Et que j'aime bien. Alors, il y a quand même des choses que j'aime bien dans cette machine. Donc là, c'est un peu mon chouchou que j'utilise beaucoup. Donc je l'ai mis dedans, même s'il n'est pas très répandu. Là, c'est un statique un peu plus connu en studio d'une célèbre marque allemande. Alors, on est plein axe, hein, donc on a un son quand même qui est riche en aigus, qui est peut-être un peu agressif. Et là, bon bah, un des plus utilisés.
Le hein. CM57.
Dès qu'on éloigne un peu le 57 de l'axe, on a un son qui est sympa avec des médiums. On comprend pourquoi il est très utilisé. Merci Kenny.
De rien.
Est-ce que Kenny, ça l'intéresse ce type de machine?
Ben, pour tout vous dire, je l'ai déjà.
Comment je croyais qu'il n'était pas encore sorti.
Non, c'est la sienne. C'est la sienne que j'ai à côté de moi.
Ah, d'accord.
Il y a du piston.
Bah, disons qu'on on se connaît bien avec Guillaume et qu'il me demande un peu de tester ses produits pour savoir si ça va plaire à un guitariste professionnel ou non. Et donc on a longtemps travaillé ensemble. Et donc moi je l'utilise, je l'ai déjà utilisé quelques fois sur scène, donc vraiment en situation, et j'en suis très content, quoi. Voilà, ça marche super, quoi.
Et les relations avec l'ingénieur du son qui se trouve justement
disons qu'il y a plusieurs sortes de concerts. Évidemment, il y a les concerts que nous, on va dire, les gros concerts où il va y avoir un ingénieur du son qui va être devant, qui va s'occuper de la façade, où là, justement, ça va lui être destiné. Mais il y a aussi les concerts beaucoup plus, on va dire, intimes. Et que donc beaucoup de musiciens font aussi. On va jouer dans des endroits beaucoup plus intimistes. Et c'est vrai que là, le torpedo, on va l'utiliser à côté de nous. Et là, ça va être très utile parce que déjà, on n'aura plus de son sur scène. On va pouvoir utiliser un système de retour personnel, donc des air monitors, ou un retour avec un bain de pied, qu'on appelle ça. Et donc là, on va pouvoir faire notre propre prise de son. Parce que, bon, tous les musiciens ne font pas des gros concerts. On n'a pas l'occasion de faire des grandes salles à chaque fois. Et là, le torpedo, sur des petits endroits, c'est vraiment super, quoi, voilà.
Oui, on peut peut-être présenter Kenny. Moi, je peux dire deux mots sur Kenny, peut-être.
Oui, avec plaisir.
Kenny, c'est un musicien professionnel. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, se produit sur scène et aussi enseigne, donc la guitare, et qui, pour l'essentiel, depuis quelque temps, tourne en duo. Donc, c'est une petite formation avec, en général, des sonorisations portatives. Donc, on est plus proche du piano bar et du café concert. Hein, c'est vraiment dans le sens pas du tout péjoratif du terme, hein, où il va avoir une petite formation. Effectivement, sans technicien son, et où il va pouvoir, lui, c'est ce que tu disais, bon, je répète un peu ce que tu dis, mais où il va pouvoir, lui, très rapidement mettre en place sa façade perso, qu'il a l'habitude, lui, de trimballer de concert en concert, et où il va pouvoir avoir ce son d'ampli poussé fort avec une grosse enceinte qu'il ne pourra jamais avoir en petite formation, dans une petite salle. Quoi.
Alors, avant d'avoir le torpedo, tu tournais avec quoi?
Peut-on dire la marque?
Oui, je pense. Oui.
Bon, oui, je tournais avec un pod, en fait. Hein. Tout le monde a ça. Voilà, j'avais un X3. Disons que c'était bien pratique. C'était pratique. Il faut quand même dire ce que c'est. C'est très pratique. C'est portable. On arrive à avoir un son de suite. Mais le seul inconvénient, c'est que toutes les guitares se ressemblent dessus et que on n'arrive pas à avoir vraiment un grain propre, quoi, voilà.
D'accord.
Et tu peux l'avoir avec le torpedo.
Oui, parce que le torpedo, en fait, ne fait que reproduire ce qui va sortir de l'ampli. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que le torpedo va évidemment proposer des enceintes et le micro, donc c'est-à-dire le couple enceinte-micro, mais c'est surtout que ce qui est important, ce qui va être super avec le torpedo, c'est qu'on va pouvoir utiliser notre tête d'ampli, voilà, notre système d'amplification, et c'est ça qui donne le son, disons notre propre caractère, voilà.
Juste préciser, t'as dit que le pod que tu avais était donc transportable, le torpedo, je sais pas si on l'a dit, c'est un format rack 19 pouces, 2 unités.
Tout à
fait. Pour que les gens aient pas s'imaginer que c'est un ordinateur, que c'est un gros bousin, qui
ne
peut pas bouger.
C'est
vraiment portable, quoi, comme tu as dit. Alors, c'est fait pour... Il y a un cahier des charges qui dit que ça doit partir en tournée. Donc,
voilà, c'est fait pour être racké, ça pèse un petit peu plus de 4 kilos, donc c'est pas un jouet, hein, on est vraiment sur quelque chose de solide et de bien conçu. C'est fait pour être racké. Alors, dans les choses importantes, qui nous semblent importantes, c'est que on a un cahier des charges au niveau de la fabrication, donc c'est fait en France, hein. C'est vrai qu'on l'a pas dit parce que nous on est à Montpellier.
Justement, oui. C'est ça que je voulais.
On est à Montpellier. Alors très honnêtement, c'est pas pour faire cocorico. Je pense qu'on peut très bien faire ça en Allemagne. Je veux dire, c'est pas du tout pour faire cocorico. Par contre, c'est vrai que nous on a un partenariat avec un industriel qui nous soutient depuis le début du projet, qui lui a une usine. Donc on fait le montage en France, l'assemblage, les soudures, enfin etc. On est vraiment sur un produit français. On travaille avec des gens qui travaillent pour l'aéronautique, donc qui sont sur des cahiers des charges très serrés. Avec vraiment des critères de qualité qui sont vraiment, vraiment tous les ISO avec plein de chiffres derrière, bon, ils ont tout ça. Et nous, ce qui nous a semblé important, c'est au niveau de la sécurité, parce que c'est des machines qui, comme on branche un ampli de puissance, alors je vais faire un tout petit peu de technique, mais vraiment, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, comme on branche un ampli de puissance, il y a des gens qui connaissent un peu la physique et l'électronique, et ils se disent, oui, mais ma puissance là, où est-ce qu'elle va? Et c'est vrai que la puissance, on la transforme en chaleur. Et en fait, avec un ampli très puissant, on peut avoir l'équivalent dans notre boîtier d'une ampoule de 100 watts qui cramerait plein pot. Et une ampoule de 100 watts, je ne sais pas si vous avez jamais mis les doigts dessus, mais ça chauffe pas mal. Donc, on a en fait un système de contrôle de température et de refroidissement. Je ne vais pas dire intelligent, on va dire asservi. Enfin, c'est un système quand même, on contrôle vraiment très précisément, qui assure à la fois une sécurité totale pour l'utilisateur, donc il ne se brûlera jamais avec cette machine, contrairement à certaines IA concurrentes qui ont tendance quand même à se transformer en charbon brûlant au bout d'une heure d'utilisation. et donc qui va aussi protéger la machine, l'ampli qui est branché dessus, si jamais l'utilisateur, sans faire attention, va trop pousser son système. Alors, la plupart des amplis guitares vont griller bien avant de faire chauffer notre machine, il faut quand même le savoir. Mais on a, en termes de sécurité, on fait vraiment très attention et à l'utilisateur et à ce qui est branché dessus. C'est vraiment une réflexion globale, comme le gain automatique. Le gain automatique, c'est on protège le circuit audio. Voilà. Et ben là, on protège l'utilisateur. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes pour un professionnel, parce que c'est vraiment un produit qui est destiné à une utilisation. Voilà, c'est un outil productif. Voilà. C'est fait pour gagner du temps, quoi.
Pour un guitariste lambda, est-ce que c'est une machine d'utilisation facile?
Alors, moi, en termes d'ergonomie, j'ai fait des études, des machins, tout ça, on s'en fout. Moi, je suis un guitariste très basique, hein, mais alors vraiment très très basique. Donc, j'utilise un ampli avec exactement 6 boutons dessus. Donc, je dirige des ingénieurs. Hein, donc, un ingénieur, c'est quelqu'un qui aime bien développer des trucs compliqués. Hein, ça, c'est pas une légende. Hein, je le vois tous les jours. Je me bats avec ça tous les jours. Mon objectif, c'était que on atteint toutes les fonctions. Alors, pour donner un exemple, on doit atteindre toutes les fonctions de la machine en pas plus de 2 clics. Voilà. Il faut qu'en 2 clics, en 2 tours de bouton, voilà, on atteint toutes les fonctions. C'est une machine dédiée, donc elle fait relativement peu de choses, mais elle est faite tellement mieux que les autres. Voilà. Et donc, ça reste simple d'accès. C'est vraiment utilisé, vraiment développé pour des guitaristes, donc pas des techniciens. Vraiment pour les guitaristes. Les ingénieurs du son vont y trouver leur compte parce qu'ils ne sont pas perdus, mais c'est vraiment pour les guitaristes. Et j'ajoute à ça qu'on a une interface de pilotage, donc on a parlé de l'USB, on a une interface graphique de pilotage où tout est représenté, donc les enceintes, les micros, on déplace en 3D le micro, enfin bon. Et ça se veut presque ludique. On a une belle interface graphique sur la machine et une belle interface graphique sur PC et Mac. Vraiment, c'est pas une usine à gaz, voilà. On a vraiment pensé ça, et on verra bien ce qu'en penseront les premiers utilisateurs, mais on a vraiment pensé ça pour quelqu'un qui a l'habitude de 4 boutons, soit pas complètement perdu. Voilà.
Je pense que pour les bassistes aussi, tu disais les guitaristes.
Oui, justement, les bassistes aussi. J'y pensais au même moment.
Alors, c'est un produit aussi pour les bassistes. Je parle moins des bassistes. Désolé pour les bassistes qui nous écoutent. Tout simplement parce qu'ils sont moins nombreux, en fait. Et que, pour parler juste un peu marketing, le marché de la guitare, c'est tellement plus gros que la basse. C'est vrai qu'on parle beaucoup moins de la basse. Pour autant, les bassistes, alors ce qui est amusant avec les bassistes, c'est que le marché de la basse, c'est un marché qui est beaucoup plus innovant que la guitare. Et que c'est les gens qui ont beaucoup moins peur, alors en tout cas les fabricants de matériel basse, qui ont beaucoup moins peur d'aller chercher des innovations. Je veux dire, il y a du speak-on en basse, ça n'existe pas en guitare. Pourtant, c'est un format qui est très pratique pour connecter une enceinte. Les égaliseurs paramétriques ou graphiques sur la basse, c'est très courant, on n'en trouve pas sur la guitare. Et il n'y a pas de vraie raison autre que un certain conservatisme des guitaristes. Donc, moi, le bassiste ne me fait pas peur. Le bassiste, je sais qu'il sait s'adapter parce qu'en fait, il est sur un marché où on l'oblige à s'adapter. C'est bizarre. J'y suis pour rien. C'est comme ça. On le constate. Mais on pense à eux. Ce qui fait qu'ils trouveront des micros qui vont leur plaire dans la machine et vont trouver des enceintes qui vont leur plaire. Et là-dessus, il n'y a aucun doute. Et alors, pour le bassiste a été dressé à la dure. Ce que je veux dire par là, c'est que sur scène, le bassiste, on l'habitue à se brancher sur une DI. Et ça, je veux dire, c'est un cas qu'on trouve dans 90% des situations de scène, hormis, bien sûr, alors, on met les Rolling Stones de côté, hein, mais sur, on va dire, l'essentiel de la production musicale, musique vivante, on est vraiment sur, bon, de la DI. Il se trouve que nos bassistes qui ont participé au test des machines, ils ont retrouvé, avec la prise de son qu'on propose nous, de l'air dans le son. Voilà. Ce qu'ils n'avaient plus sur la DI. C'est-à-dire la DI, c'est un son qui peut être très bon, il y a d'excellentes DI, mais ils n'ont plus cet effet de déplacement du son dans l'air. Ils n'ont plus ça. Ils n'ont plus ce côté polyvalent du placement du micro dans l'espace aussi. Et tout d'un coup, avec notre machine, ils peuvent rejouer sur leur Ampeg puissant qui ne pouvait plus sortir parce que ça pèse un âne mort et que personne ne veut se brancher dessus. Là, bah, il va pouvoir sortir sa tête d'ampli et retrouver ses sensations de jeu et retrouver ce qu'il a en studio quand on veut bien lui mettre un micro devant l'enceinte. Je ne suis pas inquiet pour le bassiste. Le bassiste, il sera pas mécontent de son achat.
Et pour les ingénieurs du son, qu'est-ce qu'ils... vous avez eu des échos de ce genre de personnes?
Que j'aime bien.
Oui, non, mais moi aussi.
Et pour qui je travaille. Là aussi, c'est un peu amusant. C'est un produit qui a été développé à la base pour les ingénieurs du son de studio. Complètement. C'est-à-dire l'USB, c'est les ingénieurs du son avec qui je discute couramment, qui me disent « Bon, t'es gentil, mais moi, je veux pas lever mes fesses de la chaise, ok ?»« Ok, tu me supprimes un assistant, mais je veux pas devoir me lever pour aller bouger les boutons sur la machine. » Donc, il a été pensé pour eux. Et en fait, on est venu aux musiciens et aux live parce qu'en fait, bah, c'est surtout eux qui se sont dit « Mais attends, mais j'ai plus d'enceinte à transporter, quoi. Et je gagne du temps et je me prends plus le bec avec mon ingé son parce que la salle sonne pas comme il veut, quoi. » Donc ça s'est fait comme ça. Alors, les ingénieurs du son, eux, ce qu'ils vont trouver dans la machine, c'est quoi ? C'est déjà du backline, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir 50 enceintes à proposer aux musiciens à avoir dans une, dans, soit à louer, soit à avoir dans une petite pièce. Les 50 enceintes, elles sont dans la machine. Je dirais même plus, le jour où il y a un musicien qui vient avec une enceinte hyper rare, je ne sais pas, l'enceinte d'Hendrix, la Marshall d'Hendrix, une vraie Marshall d'Hendrix, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent, hein, mais des vrais, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et la vraie Marshall d'Hendrix, il va pouvoir mettre son micro favori, je ne sais pas, un Fli, un Crowley Trip, un micro ruban, un Static, peu importe. Il va mettre son micro favori dessus et il va la capturer. Le musicien va repartir avec, lui, il aura toujours l'enceinte dans la machine. Donc l'ingénieur du son, en fait, il se crée un backline virtuel aussi gros que ses possibilités lui permettent. Et il va pouvoir proposer à ses clients des sons qui vont être difficiles à trouver, quoi, parce que les backliners n'ont pas tout, parce que les studios n'ont pas tout, parce qu'il y a des enceintes qui sont rares, des enceintes qui sont chères, des enceintes qui sont inaccessibles. Et là, il va pouvoir les avoir. L'ingénieur du son, je pense que la prise de son silencieuse, il s'en fiche un peu. C'est vrai qu'en termes de côté pratique, il va avoir le guitariste à côté de lui, il va pouvoir faire son réglage sans se lever, il n'a plus besoin d'assistant qui court en train de devenir sourd devant l'enceinte poussée au rouge. Donc on va changer un petit peu les habitudes de travail, mais au final, je pense que lui, ce qui va l'intéresser, c'est déjà le temps de mise en place. C'est-à-dire que la prise de son, elle est mise en place instantanément, quoi. On allume, on rappelle une scène et en avant. D'un jour sur l'autre, ça n'a pas bougé. C'est pas sensible à l'hygrométrie, une machine numérique. Ça a certains avantages, ça a des désavantages, mais ça a certains avantages. Et puis, un des intérêts, c'est que on pratique beaucoup la prise multimicro en guitare, ce que permet pas de faire la machine. La machine, là, en tout cas, cette version, permet de faire un micro, une enceinte. Un des gros problèmes de la prise multimicro, c'est la gestion des phases. C'est-à-dire que, et ça, on peut rien y faire, deux micros placés à une certaine distance d'une membrane qui gigote, ils captent peu ou prou la même chose, mais déphasé d'un certain... Il va y avoir forcément un certain déphasage. C'est lié à la propagation du son. On peut rien y faire. Donc, il y a une bagarre permanente sur la prise multimicro pour trouver les bonnes positions qui vont faire que, au final... deux micros différents en face, ça n'existe pas, hein, c'est juste pas possible. Donc au final, on va avoir un déphasage qui va plaire. Voilà, c'est ça qu'on va chercher. Notre machine, de par sa constitution, va permettre de faire éventuellement une prise micro, mais on va rajouter notre machine en plus avec un micro parfaitement en phase, puisque nous, on n'a plus de propagation, et on va pouvoir faire une prise multimicro avec notre machine, c'est-à-dire l'ingé son, il va avoir sa... Je dis souvent ingé son, mais ce n'est pas péjoratif. Je ne sais pas si la pratique du milieu, c'est dire ingénieur à chaque fois, mais...
Ils s'appellent eux-mêmes ingé son.
Bon, mais voilà. Non, mais c'est... Je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Donc, il va avoir son micro habituel, et puis il va se dire, tiens, je vais proposer à mon musicien, mon bassiste, moi, j'ai que en backline, là, j'ai un petit 1.15, je vais lui proposer un 8.10 que je vais avoir sur le VB101. Et il va lui proposer un son qui sera un mélange des deux, sans pour autant avoir loué quoi que ce soit. Et la dernière des choses, c'est un système... Je suis vachement bavard, hein, vous avez vu ? C'est un système de réamping. Alors le réamping, c'est une pratique qui est de plus en plus répandue, qui est assez récente. La technique de réamping, c'est quoi ? C'est qu'on va proposer au musicien de faire sa prise guitare avec son ampli, une prise brute. Donc on va pas passer dans notre simulation. Et après coup, au moment du mixage, l'ingénieur du son va pouvoir repasser le son brut de l'ampli, donc un son pas très joli, hein, brut de l'ampli sans enceinte, et faire vraiment sa prise de son, donc son choix d'enceinte et de micro, au moment du mixage. L'intérêt de la chose, il est très simple, c'est que souvent, quand on fait une prise, on est très content de sa prise. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a tous les instruments et qu'on est au mixage, en général, moi j'ai jamais vu le cas ne pas se produire, on fait des corrections, quoi. On a toujours des corrections à apporter. Là, les corrections, plutôt que de travailler à l'égalisation, ce qui apporte toujours de la distorsion, ce qui apporte quand même des petits problèmes de phase, qui peuvent être agréables à l'oreille, mais enfin qui sont réels, on va pouvoir faire son déplacement de micro et vraiment sa prise de son, avec la basse, avec la batterie, avec déjà un mixage très avancé. C'est un peu un changement dans les habitudes que moi je recherchais, parce que je suis un peu preneur de son aussi. D'ailleurs, les gens qui écouteront les samples sur notre site verront, ça a été fait comme ça, où on a fait une prise brute, on a repassé le son dans notre machine jusqu'à temps de trouver le son qui nous plaisait, qui va peut-être pas plaire aux voisins, mais qui nous plaisait, qui se calait bien et qui nous a permis de faire quasiment aucune retouche d'égalisation. À partir de là, je pense que ça donne une flexibilité dans le travail qui peut être recherché et qui est tout à fait appréciable.
Alors deux questions. La première, y a-t-il des mises à jour ?
Bon, c'est une machine qui ne plante pas et qui n'est pas buggée. Alors on ne va pas en proposer tous les jours. Les mises à jour, ça va être plutôt, je pense qu'on va se baser sur les premiers retours des utilisateurs pour proposer éventuellement des petites fonctionnalités supplémentaires.
Est-ce qu'il peut y avoir des nouveaux apports de son ?
Alors oui. Voilà. Alors nous, on offre à nos clients tous les mois une nouvelle enceinte. Il faut savoir que on fait donc nous on a un studio d'enregistrement, hein, qui est à côté de nos locaux dans lequel on fait nos enceintes et on a notre parc de micros. Donc avec les enceintes qu'on offre tous les mois, on va pouvoir réaliser ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la guitare, à savoir déplacer le micro dans l'espace, etc. Ça, tous les mois on en donne une, À terme, je pense qu'on proposera des packs d'enceintes, des packs d'enceintes que les gens pourront acheter moyennant une somme modique et qui leur apporteront un peu plus de variété sonore. C'est comme ça qu'on voit l'évolution du produit. Ça permet de maintenir l'intérêt pour le produit. Et puis surtout, l'autre plus, je pense, du produit, c'est qu'il y a cette démarche qu'on fait nous, c'est-à-dire d'offrir des enceintes. Mais une fois qu'on aura un pool d'utilisateurs suffisamment gros, les gens vont faire leurs propres mesures et vont pouvoir se les échanger. Donc nous, on a déjà un forum de discussion qui est en place. Via ce forum et via... ils hébergeront leurs fichiers où ils veulent. De toute façon, c'est des très petits fichiers. Les mesures, c'est moins d'un méga. Donc c'est vraiment des très... beaucoup moins d'un méga. Ils vont pouvoir s'échanger les fichiers. Par exemple, l'ingénieur du son de New York qui a récupéré une enceinte vintage, une Vibroverb Fender, un truc introuvable, enfin je sais pas, va pouvoir dire à tout le monde, écoutez, je vous la mets à disposition. J'avais un micro machin. Ça a été enregistré dans le studio Intel. J'ai suivi le protocole parce qu'on explique aux gens comment il faut qu'ils fassent. Et il a fait sa mesure, il va la proposer à tout le monde. Et au final, on va avoir comme ça des échanges de fichiers. Une variété en fait qui a comme unique limite l'imagination des gens qui vont faire les mesures.
Alors pour en revenir par exemple sur scène, j'imagine le cas de 3 guitaristes sur scène. Mm-hmm. Comment ça se passe? Il y a 3 machines?
Oui, une machine par musicien. Donc d'accord. Même 2 guitaristes, un bassiste en fait. Hein. Mm-hmm. Juste pour faire un peu mousser, parce que je suis assez content parce que c'est nos premiers clients en fait. Nos premiers clients, c'est The Rasmus. C'est un groupe qui est finlandais qui a vendu quand même 1,5 million d'albums. Donc au moins juste pour ça, c'est notable, qui a été récompensé. Donc c'est de la musique, c'est de la musique de jeunes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est des grands professionnels. C'est les premiers qui ont été intéressés par notre machine qu'on avait présentée aux Musiques Messeux cette année. C'est simple, ils sont 3 sur scène, enfin ils sont 3, un batteur, 2 guitaristes, un bassiste, ils ont tous une machine. Voilà, ils ont tous leur propre machine avec leur son. C'est pas une mixette, c'est pas un mixeur. Vraiment, il faut que chacun ait sa prise de son, comme d'habitude, avec le micro devant l'enceinte. Voilà, sauf que là, le micro est dans la boîte.
Avez-vous d'autres questions?
Oui, moi une toute petite question à propos d'Orosis to Note. Pas tout seul dans la boîte. Vous êtes bien structuré. Il y a plusieurs personnes. Peut-être qu'on peut les citer ou dire un petit peu comment c'est organisé, qui fait quoi, voilà.
Bien sûr.
Pour les copains qui sont pas là, et puis surtout parce que c'est bien de voir une jeune boîte comme ça qui a mine de rien créé des emplois. Enfin, il y a une équipe entière, quoi. C'est pas juste toi qui a même cité à l'initiative du projet, quoi.
Alors oui, et d'autant plus que alors moi je suis le patron, donc comme des tas de patrons, je fais pas grand chose. Hein. Je sais pas ce que t'en penses.
C'est normal. On fait rien, voilà.
Donc
un patron.
Oui, voilà. Moi j'ai une batte de baseball, un fouet. Enfin, c'est mes outils de travail.
Ouais. Donc
j'ai des esclaves très faiblement rémunérés, donc des passionnés. Alors j'ai cette joie et cette chance d'être dans un domaine qui attire les passionnés, surtout en France où il y a relativement peu de développement en audio, hein, on n'est pas vraiment formé à ça, il y a peu de sociétés, à part en Hi-Fi où effectivement, en Hi-Fi, en monitoring, il y a des gens qui sont présents, mais c'est vrai qu'en développement de ce type de produit, on est un peu isolé en fait. Être sur une activité de passion, ça m'a permis d'attirer des gens qui ont un profil génial, c'est-à-dire des gens non seulement hyper compétents, mais en plus qui sont là pour le plaisir. Alors on va les citer parce que c'est important, parce que c'est eux qui développent le produit. Hein. Moi je me contente de dire il faudrait qu'ils fassent ça, mais après c'est eux qui codent et c'est eux qui soudent et c'est eux qui développent le soft. Donc moi je suis l'ancêtre dans cette société, donc j'ai l'âge vénérable de 31 ans. Donc alors je suis dans ma boîte, on manque pas de me le rappeler. Hein. Les autres sont beaucoup plus jeunes, donc ils sortent juste de l'œuf, hein, puisqu'ils ont tous, dans la boîte, c'est entre 23 et 27, puisqu'on a une nouvelle recrue qui est presque aussi vieille que moi. Mmh. Et donc on a Quentin qui s'occupe de tout le développement soft. Donc Quentin, c'est une nouvelle recrue, c'est quelqu'un qui vient, qui a bossé en sous-traitance pour Microsoft, donc quelqu'un qui est très carré, qui a l'habitude de mener des projets, et qui lui s'occupe vraiment de toute la plateforme de communication de la machine avec un PC ou un Mac. Donc lui a cette responsabilité-là. Au niveau du hardware, on a Bruno. Donc Bruno, c'est un très bon ingénieur qui en plus a un profil de bidouilleur, puisque c'est quand même un garçon qui avait plus d'une centaine de pédales chez lui, qu'il avait modifié, retapé. Enfin, c'est un maniaque. Et d'ailleurs, il sera là demain. Il a fait le voyage exprès pour venir voir la démo de Montpellier. Donc demain au studio. Ah ouais, demain c'est un peu idiot en enregistrement. Enfin bon, vu qu'on est à Twin. Donc Bruno, c'est lui le responsable du hardware. Si c'est une belle machine qui marche bien, qui est robuste, qui est bien pensée, c'est vraiment lui qui a l'issue de ça. Et c'est un type qui a 24 balais. Voilà. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est Yvan qui est à l'origine avec moi du projet. C'est vraiment un des porteurs du projet, qui aujourd'hui a fait le choix de partir en thèse. Donc on a une collaboration avec l'IRCAM. petit laboratoire un peu confidentiel que personne ne connaît, qui on a eu vraiment le privilège de travailler avec ces gens-là. Donc on est en collaboration sur un projet de recherche sur le prochain produit qui nous apporte vraiment un soutien important. Et Yvan est en thèse, donc Yvan est ingénieur et il est maintenant en thèse et il développe son sujet de recherche. Donc on fait vraiment de la recherche, de la vraie recherche avec des publications, avec des vrais calculs compliqués qui donnent mal à la tête, que je ne fais plus parce que moi j'ai juste un fouet, une batte de baseball. Et donc c'est eux qui font les produits. Donc on est quatre, c'est petite structure, mais grosse tête. Et on a la chance d'avoir des partenaires, donc que ce soit institutionnel, puisqu'on travaille avec donc, notre région, la région Languedoc-Roussillon, on travaille avec donc, le ministère de la Recherche qui nous a récompensés, des laboratoires. Donc on a effectivement l'IRCAM, on a aussi le LIRM, qui est un laboratoire d'informatique, robotique et microélec, qui est à Montpellier, qui nous a soutenus depuis le départ, dont je suis issu. Donc bon, ça a aidé. Et on a des partenaires forts au niveau industriel, au niveau recherche, puisque c'est vraiment là-dessus que je pense qu'on n'est pas mauvais. Et la recherche, c'est vraiment la recherche et l'innovation, c'est une de nos motivations, pas juste parce que c'est marrant de faire de la recherche, mais surtout parce qu'on propose des nouvelles manières de travailler et que moi, j'ai juste la prétention de développer des outils pratiques qui font gagner du temps, qui facilitent la vie des musiciens et des professionnels du son. Voilà.
Très bien. Alors le 17, si j'ai bien compris, la machine sort dans le commerce, c'est ça ? Comment ça ?
Exactement. Oui. Le 17 décembre, c'est la sortie officielle. Donc, on a un site de vente en ligne qui est lié à notre site principal, Toonotes.com. Le site de vente en ligne, donc c'est nous, hein. C'est, en gros c'est moi qui est de l'autre côté de l'écran. On propose donc en direct en vente à nos premiers clients, donc on a déjà une certaine quantité de machines réservées. On est en direct et on est en train de mettre en place notre réseau de distribution en France, puisqu'on veut que les machines soient présentes quand même proches des gens, même s'ils peuvent en VPC les renvoyer si elles leur conviennent pas, ça c'est bon, ça c'est comme toujours, mais disons qu'on veut quand même qu'ils puissent les tester dans de bonnes conditions. Et pour les professionnels, bon, on le fait pas pour les particuliers parce que c'est trop complet, mais bien sûr pour les professionnels, les régisseurs de salles de concert, les régisseurs de studio, on prête bien entendu des machines pour les gens qui veulent tester, parce que effectivement, m'écouter parler c'est bien, la tester c'est quand même vachement plus intéressant.
Très bien, donc je rappelle votre entreprise qui est Orosys, votre site internet
www.tout-notes.com.
Voilà, donc dépêchez-vous de commander cette magnifique machine, parce qu'il va bientôt
question, excuse-moi, en rupture de stock. Une petite question prix, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Finalement, les gens vont nous reprocher de ne pas en avoir parlé.
Ouais, c'est vrai. C'est une machine qu'on propose en prix de lancement à 1499 € TTC. Elle sera à 2000 €. Son vrai prix, c'est 2000 € TTC. On la propose un peu moins cher pour le lancement parce qu'on est nouveau, parce qu'on est petits jeunes, parce que les gens ont le droit de ne pas nous faire confiance. Donc on veut leur donner envie de tester. Je suis suffisamment confiant pour penser qu'ils ne vont pas tous nous la renvoyer. C'est 1499 et ça va durer jusqu'à écoulement des 100 premières machines qui devraient se produire, je pense, en février, j'espère avant. Donc à un moment donné, ça va passer à 2000. Donc si ça vous intéresse même un tout petit peu, il va falloir se précipiter.
Les carnets sont bientôt pleins.
Les carnets sont bientôt pleins, il en reste quelques-unes. On a beaucoup de revendeurs qui sont bien sûr intéressés. Même si c'est une machine pro relativement onéreuse, c'est quand même un outil. Voilà, moi, mon ambition, c'est que cette machine, demain, il n'y ait pas une salle en France et en Europe qui ne puisse pas la proposer comme outil pratique aux musiciens qui viennent. Cette machine, elle doit être présente en studio, elle doit être présente sur scène. Et il y a beaucoup de musiciens qui tournent, comme Kenny, des fois en petite formation, des fois en plus grosse formation, qui vont l'avoir juste pour dépanner, juste pour sauver la mise le jour où, pour ne pas prendre d'enceinte, pas s'embêter, pas avoir ça dans le camion, pas avoir le mal de dos qui va avec.
Très bien. Un dernier mot, Grégory ?
Mais écoute, juste Guillaume, bonne chance pour la machine. Bientôt en test sur Audio Fanzine, d'ailleurs.
C'est vrai.
Donc on y compte bien.
Vous serez les premiers. Ce sera le premier test.
Très bien.
Kenny ?
Oui, non, rien de plus. Juste, tu disais qu'il fallait essayer le torpedo. Et je pense, étant guitariste, c'est vrai que c'est vraiment bluffant au niveau de la sensibilité. On a vraiment la sensation vraiment de jouer sur quelque chose d'organique, quoi, de vraiment très naturel. Et c'est pour ça que qu'on parle un peu très technique. On est assez technique, mais au final, c'est quand même la musique qui prime. Et que pour le guitariste, ce qu'il a envie, c'est d'avoir le son, quoi, d'avoir vraiment le son de son ampli. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer, parce que c'est bluffant, quoi, voilà.
Christophe, en dernier mot.
Oui, bien sûr. vous aurez remarqué qu'il y a Grégory, d'Audio Fanzine qui est là. C'est une première façon de sceller un pacte qu'on vient de passer avec Audio Fanzine, qui fait que Audio Fanzine va relayer un certain nombre d'émissions qu'on a réalisées jusqu'à maintenant. afin de, bah, de nous apporter un auditoire un peu plus large, et puis surtout de porter la bonne parole, on va dire.
Tout à fait.
Voilà, de fournir du contenu à nos camarades d'audiofanzine, et pour nous de, voilà,
d'essayer nous, on trouve très très intéressant toutes les émissions qui ont été faites ici. Donc toutes celles qui traitent du sujet de l'audio nous intéressent. Bon, l'archéologie sous-marine un tout petit peu moins. Je suis désolé.
Mais en tout cas, et la psychanalyse.
Tout ce qui concerne l'audio, en tout cas, voilà, on pense que ce contenu est suffisamment d'intérêt largement pour être diffusé au plus grand nombre. Et voilà, comme on a un trafic relativement important, on espère qu'on va pouvoir porter tout ça.
Merci Guillaume Pille d'être venu.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Moi, je vous souhaite bon vent.
Merci.
Et puis, bonne chance. Et puis, pour la deuxième machine, on se reverra.
La deuxième machine, on en parlera la prochaine fois.
Bien, merci beaucoup à tous d'être venus. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Bonsoir. Autre radio, autre culture.